Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Bonjour Priscille.
Bonjour.
Alors, le thème abordé depuis le début de cette semaine est celui de la fausse couche. Pour vous, c'est pas une fausse couche, c'est un accouchement.
C'est un accouchement, tout à fait.
Un accouchement dans des toilettes.
C'est à peu près ça.
Sans l'accompagnement
seul,
autour.
Voilà, seul, face à soi-même et face à ses émotions.
Mais au fond, démuni, dépourvu.
Oui. Dépourvu de tout.
Alors, le but dans ce 10 minutes d'entretien, dans la suite de cette série des clés pour vivre, vous avez trouvé vos propres clés. Vous venez de me parler hors antenne d'un instinct de survie. Mmh. C'est ces trois coups de fil,
oui.
Voilà, qui sont importants. Voilà. Alors, un premier coup de fil, c'est votre sœur aînée, je crois.
Exactement. Mon premier réflexe a été d'appeler mes sœurs. J'ai la chance d'avoir des grandes sœurs avec qui je peux partager ce genre de choses très ouvertement. Et dans mon malheur, j'ai vraiment cette chance-là. Après, chaque femme n'a pas forcément une sœur ou une grande sœur à ses côtés, mais elle peut peut-être trouver dans son entourage quelqu'un dont elle est suffisamment proche pour s'ouvrir. Et donc, j'ai passé dans la foulée trois coups de téléphone de retour chez moi. Et ces trois coups de téléphone m'ont été... extrêmement utiles et ont été riches pour moi. Le premier donc a été ma sœur aînée qui a décroché tout de suite, ce qui n'est pas toujours le cas avec la vie très occupée qu'elle a. Et là, bah voilà, j'ai appelé, elle a décroché et je me suis effondrée en larmes au téléphone et elle a eu la présence d'esprit de me laisser pleurer et de m'écouter en fait, de rien dire. Elle m'a juste laissé pleurer pendant quelques minutes au téléphone en comprenant que quelque chose se passait. Et j'avais juste besoin de ne pas être seule à pleurer chez moi et d'avoir quelqu'un qui m'écoute pleurer, en fait. Et donc ça a été un grand soulagement pour moi d'avoir quelqu'un au bout du fil pour m'entendre pleurer. Et au bout de quelques minutes, donc, je lui ai expliqué ce qui se passait. Et surtout, je lui ai fait part de mes questions vraiment qui me tiraillaient sur ce qui allait se passer si je ne voyais pas le fœtus qui passait dans la chasse d'eau, dans la poubelle. J'étais angoissée à ce sujet. Et en fait, elle m'a tout simplement dit « Mais écoute, appelle ton curé. Il faut que les prêtres réalisent le quotidien des familles et qu'ils réalisent vraiment le genre de questions auxquelles on peut faire face et il faut qu'il nous aide dans notre foi jusqu'à ces questions extrêmement concrètes. Donc, si c'est le bon moment, il décrochera. Voilà. Et vraiment, je la remercie de ça aujourd'hui parce que je n'aurais jamais eu l'idée d'appeler mon curé pour lui parler de ce genre de choses.
Pour quelle raison ? Par peur, vous auriez...
Peur, bah, c'est quand même un sujet intime en tant que femme, donc on n'a pas spécialement envie de partager d'entrée de jeu comme ça, surtout dans le vif... avec un homme déjà et avec un prêtre, encore moins. En tout cas, ça, c'était pas ma première idée. Mais dans le feu de l'action, je pense, je l'ai appelé et il se trouve qu'il a décroché très rapidement. Donc j'imagine que c'était le bon moment et pour lui et pour moi. Et donc je lui ai expliqué la situation, que j'étais en train de faire une fausse couche et... je m'y attendais pas, mais il a été extrêmement compréhensif, extrêmement délicat dans sa façon d'accueillir ce que je lui racontais. Et je lui ai fait part de ma peur, en fait, de faire passer mon fœtus, mon embryon, mon enfant, en fait, dans une poubelle ou dans les toilettes. Pleine de questions parce que l'Église avait une position très claire sur l'avortement et tout ça, mais sur la partie fausse couche, j'étais complètement dépourvue du rôle de mère, du rôle qu'on pouvait avoir, de notre responsabilité sur l'avenir de cet enfant en fait mort. Et en fait, mon curé a eu une réponse. Il n'a pas eu à réfléchir longtemps, ce qui m'a aussi beaucoup rassurée. Pour lui, ça coulait de source. Il m'a dit, mais vous savez, le manque de sépulture n'empêche pas une âme de monter au ciel. Et là, ça m'a vraiment soulagée d'entendre cette phrase. Ça m'a déculpabilisée. Je me suis dit, bon, si jamais je le rate et que cet enfant passe dans la chasse d'eau, eh ben, mon enfant sera quand même accueilli là-haut. Et je n'aurai pas failli complètement dans mon rôle de mère. Je pense qu'il y avait vraiment de ça. Et ça m'a déchargée de ce poids. Et à nouveau, j'en suis très reconnaissante à mon curé d'avoir eu cette phrase simple et très claire qui pour moi était ce dont j'avais besoin et qui était ce que j'avais besoin d'entendre à ce moment-là.
Et il avait répondu, il était présent au bout du fil.
Voilà, par miracle. Il était exactement, il était présent, disponible pour parler quelques minutes. Vraiment, il m'a
apaisé.
Ouais, il m'a apaisé.
Et, déculpabilisé.
Déculpabilisé. Et il a répondu à cette question vraiment de foi sur laquelle voilà, j'avais besoin de réponse et il n'y avait pas, dans le catéchisme de l'Église catholique, j'avais pas de paragraphe sur la fausse couche, on va dire. Donc il a eu cette réflexion de me dire le manque de sépulture n'empêche pas une âme de monter au ciel. Et ça a été libérateur.
En fait. Et au fond, c'est ce qui vous donnait ce désir, cette audace de témoigner sur ce sujet très précisément. Non pas de l'avortement, parce que ce n'est pas le sujet de la semaine, mais de la fausse couche.
De la fausse couche.
Qui peut arriver et qui arrive à bon nombre de femmes, mais qui reste parfois aussi très silencieuse sur le sujet.
Oui, tout à fait. Ouais. Oui. Et j'ai eu...
Et un troisième coup de fil.
Voilà. Ah. J'ai eu ensuite une autre de mes sœurs qui elle, a une approche extrêmement pratico-pratique hein, de la vie de femme, des questions comme ça. Et à nouveau, j'en suis extrêmement reconnaissante d'avoir eu des sœurs si complémentaires et si disponibles au bon moment, au bon endroit. Donc à nouveau, j'ai expliqué ce qui se passait. Et en fait, elle m'a dit, écoute Priscille, si tu trouves ton fœtus, bah écoute, tu vas l'enterrer dans ton jardin au pied de ton rosier et puis c'est tout. Et en fait, pour elle, ça avait l'air si évident, si clair, si facile. Ça a un petit peu aussi dédramatisé la situation et ça m'a quelque part donné l'autorisation de le faire. Dans mon esprit, je savais pas, je bloquais tellement sur tout, sur ce que je pouvais faire, pas faire. En fait, j'étais à la fois dans un contexte émotionnel très intense, avec toutes mes questions, et je devais prendre des décisions où j'allais devoir en prendre, et j'étais complètement perdue. Et puis voilà, elle m'a juste, comme un GPS, elle m'a dit, bah écoute, voilà, ce qui arrive, si ça arrive, bah tu fais ça, et voilà, et c'est tout. Et elle m'a également conseillé de donner un prénom à cet enfant, que ça le permettait, moi, de, bah, voilà, de le faire exister vraiment, de lui donner un statut et d'en parler aussi à mes deux grands, à mes enfants qui étaient là. Pas avec moi là, mais le soir même, d'en parler à mes enfants parce qu'ils allaient... elle m'a dit, écoute, ils vont forcément se rendre compte que tu vas pas bien. Après tout, c'est leur petit frère ou leur petite sœur dont il s'agit. Et il faut leur expliquer que... il y a une graine de bébé dans ton ventre qui s'est décrochée et que ça arrive et que voilà, tu es très triste. Et là, ce terme de graine de bébé qu'elle m'a soufflé a été vraiment très bien trouvé. J'en ai en effet parlé le soir même à mes enfants, avec mon mari aussi qui était là, donc on était tous les quatre et je leur ai expliqué en effet qu'il y avait une graine de bébé qui s'était décrochée. Et mon fils, qui avait donc 4 ans, a très bien s'est approprié un peu ce terme et aujourd'hui donc je suis enceinte et quand je suis retombée enceinte plusieurs fois il m'a reparlé de la graine de bébé, il m'a dit mais maman est-ce que cette graine de bébé là elle va se décrocher ou pas ou est-ce qu'elle est toujours bien accrochée et il en parlait de manière
en
très
fait,
spontanée.
Il avait très bien compris.
Oui. C'est ça, c'était ouais. Pour lui c'était naturel, il comprenait que c'était triste, que j'étais triste, même lui plusieurs fois m'a dit qu'il était triste aussi pour la graine de bébé.
Permettez-moi de réagir, vous n'avez pas caché l'information à vos petits, très jeunes. L'information a été donnée.
Voilà, elle a été donnée. C'est vrai que ma sœur m'a vraiment fait prendre conscience que c'était important de le faire. Mais dans tous les cas, je suis plutôt dans l'optique, et mon mari et moi sommes plutôt dans l'optique d'être assez explicite avec nos enfants sur
au
ce
fond,
genre
vérité,
de sujet.
Voilà. Éviter les secrets.
Éviter les secrets. Et puis... même pour mon enfant à naître là aujourd'hui, je voulais pas non plus qu'il y ait un non-dit autour de sa naissance et qu'il ait au fond de lui quelque part le sentiment de remplacer un enfant mort. Vous voyez, je voulais que ce soit clair Et j'avais aussi besoin, et j'ai encore ce besoin aujourd'hui, que cet enfant ait un statut, en fait, un numéro d'ordre dans notre fratrie, qu'il soit validé dans son existence. Et le fait d'en parler, bah, ça prouve son existence. Alors qu'à nouveau, comme ma fausse couche a eu lieu au bout de 4 semaines de grossesse, très très peu de personnes le savaient, en fait. Et donc, on aurait pu ne rien dire à personne et ça aurait pu rester caché. Mais non, je voulais, en fait, par sa mort, finalement, montrer qu'il existait, qu'il avait existé. Au moins auprès des enfants, ça c'est sûr.
Et vous vivez cette grossesse actuelle comme votre quatrième grossesse.
Comme ma quatrième, voilà, exactement. Comme ma quatrième grossesse, et, ce qui est le cas.
Alors moi, je vous propose de nous retrouver, ça sera notre dernier rendez-vous de la semaine dans cette émission des clés pour vivre. Priscille, merci de ces paroles que vous posez pour vous-même, mais surtout pour ceux et celles qui ont été et seront confrontés à cette épreuve de la fausse couche, perte d'un enfant.
À demain
à la même heure.